Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés pour notre petite émission de la semaine avec Charles Gave, avec un auditeur que vous ne verrez pas qui nous a rejoint parce que de temps en temps, certains de nos membres de l'Université de l'Épargne ont l'immense plaisir et l'immense joie de pouvoir venir en off nous écouter. Non, en vrai, venez si vous avez envie, vraiment, ça nous fait grand plaisir.
Il est arrivé ce matin tranquille et puis...
Et voilà. Et le DAF, bien entendu, qui, comme chacun sait, ronfle comme un goré, parce que il ne sait faire que ça. Alors, aujourd'hui, il nous incombe un petit peu la responsabilité, comme d'habitude, d'être porteur de mauvaises nouvelles, ce qui n'est jamais forcément agréable. Mais que dire ? On ne peut pas véritablement faire autre chose que de dire la réalité, et c'est un petit peu la seule chose que l'on puisse faire. Aujourd'hui, on a une dette qui ne cesse de croître tous les jours. On a une situation que l'on appelle une trappe à dette, sur laquelle on va revenir, parce qu'il faut véritablement, encore une fois, dire les termes et donner les faits. Et il faut parler de l'implication qu'est le service de la dette. On a vu en septembre, et on a déjà fait une émission sur ça, le fait que la note de la France avait été abaissée. Alors, la note de la France, c'est quoi? On le sait que tous ces organismes ne servent pas à grand-chose. Ils étaient nulle part en 2008, quand il avait fallu noter les uns et les autres. Mais ils permettent, malgré tout, d'être des déclencheurs de l'opinion publique et de pendant un moment, être un petit peu une sorte de paratonnerre.
C'est un petit peu comme si vous êtes en classe et que vous revenez, vous avez 20 en maths, puis vous avez 15, puis vous avez 10, puis vous avez 4, puis vous avez 2, puis quand vous arrivez à 0, en principe, il vous arrive des trocs, et là...
Normalement, tes parents sont convoqués aux alentours de 12 en disant, bon, bah, qu'est-ce qui va pas à la maison? Pourquoi le petit a une moyenne qui baisse?
Nous, on a été convoqués à plusieurs reprises, et les parents à la maison, ils continuent à se mettre sur la gueule, donc le petit continue à avoir des mauvaises notes, quoi, c'est un peu le...
Alors, tu avais fait dans un des papiers une sorte de prospective pour essayer de voir les mécanismes qui permettent de déterminer l'évolution de la dette française dans le futur.
Oui.
Alors, il y avait l'idée que si un pays a par exemple un PIB de 100,
oui,
une dette de 120% qui est détenue à 50% par des nationaux et à 50% par des étrangers,
oui,
un service de la dette... taux d'intérêt à 2,5% et qui va monter au-dessus de 3% quand la dette est mise à zéro sera représentée au remboursement.
Oui.
Une croissance nominale du PIB, une croissance nominale de 1,5% par an qui baisse structurellement,
oui,
sans compter que cette hausse nominale en plus est dopée par des emplois publics, mais nous y reviendrons sûrement. Une dette qui va sans doute monter de près de 10% cette année, soit 3300 milliards de nouveaux emprunts. 330 milliards de nouveaux emprunts. En l'année T0 aujourd'hui, le PIB en valeur nominale dégage 1,5 de plus que dans l'année T-1 2024.
Voilà.
La question est donc, à quelle heure les trains vont se croiser à Limoges? Comment vont se partager les 1,5% de croissance?
C'est pas très difficile, les 1,5% de croissance, ça va vous donner ce qui est disponible... à dépenser, en quelque sorte. C'est la... Normalement, s'il n'y avait pas de dette, s'il n'y avait rien, ce serait la hausse du niveau de vie en France moyen. Tu vois, c'est... Mais si tu as 120% de dette, des taux d'intérêt de 2,5, la quasi-totalité de cet accroissement va aux étrangers pour servir la dette. Donc, ce que j'essayais de dire dans ce papier, que vous pouvez lire, c'est qu'à partir de maintenant, je suis absolument certain que le niveau de vie des Français va baisser en termes absolus année après année. Ça fait déjà un petit moment que ça... on a vu les classes les plus touchées, c'était comme toujours les plus pauvres. Puis maintenant, ça monte. Et maintenant, c'est la classe moyenne et la classe supérieure dont le niveau de vie va baisser en termes absolus. Ce qui s'était jamais produit en France depuis... Écoute, je crois que la dernière baisse du niveau de vie absolu, ça a dû être peut-être dans les années 30. Mais à l'époque, il y avait 80% de la population qui était dans la campagne. C'était pas... Donc, ce qui arrive, c'est que la France aujourd'hui arrive maintenant dans un moment où on ne peut plus masquer la baisse de la création de richesse par l'endettement. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où plus tu t'endettes, plus tu t'appauvriras plus vite.
Voilà.
C'est ça ce que j'essayais de dire. Et ça a des implications politiques extraordinaires, parce que ce qu'essaye de faire le corps politique, c'est de dire, dans le fond, il faut que la dette cesse de monter. Pour la dette cesse de monter, il faut que les impôts augmentent. Mmh. Mais je suis les marchés financiers, tout ça depuis 50 ou 60 ans, comme vous le savez tous. Et je crois que dans ma vie, il y a eu un cas où une hausse des impôts a été suivie d'une amélioration du système budgétaire. C'était pendant les années Clinton, où Clinton a augmenté assez l'impôt sur les plus-values, de façon assez sensible, et ils ont eu un coup de peau terrible, c'est que ça a été pendant la première bulle Internet. Donc les marchés des actions sont montés comme des fous, non pas parce qu'il se passait des trucs dans l'économie, mais parce qu'il y avait une nouvelle invention qui arrivait.
Une invention schumpeterienne.
Qui a multiplié. Et donc les gens gagnaient énormément d'argent en bourse, et en vendant, crac, ça ramenait. Mais c'était plus une coïncidence qu'une causalité.
Oui, c'est ça. Bah, d'ailleurs, il y a zéro causalité.
Il y avait zéro causalité.
Ouais, c'était une heureuse incidence. Et il s'est trouvé qu'il y a une invention à ce moment-là, ce qui a permis d'avoir des impôts sur les plus-values qui a fait tourner la machine.
Et une spéculation aussi, les gens vendaient, gagnaient de l'argent, bon, c'était très bien. Mais à part ça, je ne connais pas d'exemple dans l'histoire d'une hausse des impôts qui n'est pas amenée à une hausse du déficit budgétaire. C'est-à-dire que nous avons largement dépassé ce qui s'appelle la courbe de l'affaire, c'est-à-dire que trop d'impôts tue l'impôt, disait la sagesse populaire française, et tu as maintenant passé la courbe, l'endroit où si tu augmentes tes impôts, la rentrée fiscale vont baisser.
Alors, je voudrais te poser une question sur ça, parce que dans les médias mainstream, comme on a l'habitude de dire, il est courant que la gauche dise « cette courbe de l'affaire n'a jamais été prouvée », ça c'est le point numéro un. Et deux, toi, quand on te parle de la taxe Zucman et du fait de taxer plus encore l'outil de production ou même les revenus des plus riches, qu'est-ce que ça appelle pour toi comme réponse ?
Ça appelle pour moi comme réponse une réponse qui est tout à fait simple, c'est que si tu réfléchis, d'où vient la croissance ? C'est un phénomène qui est plus facile à comprendre, c'est que tu as des épargnants, il y a une masse d'épargne qui est faite là, et puis, il y a un système financier qui transforme cette épargne en investissement. Tu vois, c'est donc il faut, tu as trois composants, la quantité d'épargne, le système financier, et les gens qui transforment ça en capital productif. Hein. Mais si tu taxes les gens, les riches, ils ont une caractéristique quand même, c'est qu'ils ont un taux d'épargne élevé. Mmh. Donc, plus tu taxes l'épargne ici, moins il y aura d'investissement à faire ici, quoi que fasse le système financier là. Le problème que nous avons dans notre monde aujourd'hui, c'est que la plupart des gars qui sont au Parlement pensent que la croissance vient de la consommation.
Bah bien sûr, tout le monde à gauche pense que la croissance vient de la consommation.
Donc si tu augmentes la consommation, ça va entraîner la croissance. Ça va entraîner la croissance peut-être des importations d'Apple, mais c'est pas pour ça que ça va passer.
Ou des t-shirts Shine qui sont fabriqués en Asie, donc ça nous fait une belle jambe.
Donc ça nous fait une belle jambe. En fait, la croissance vient toujours de l'augmentation du capital productif, c'est-à-dire de ce que les économistes appellent l'approfondissement capitalistique. Plus le travailleur français a de capital à sa disposition, plus sa productivité sera forte et plus son niveau de vie montera. Et là, ce que tu fais, c'est que tu coupes en quelque sorte, tu réduis la source même de l'augmentation du capital productif qui est l'épargne des Français. Et il se trouve que, sans doute, je vais encore en parler de la loi de Pareto, mais 80% de l'épargne des Français doit être fait par 20% des Français, les plus riches. Et ces plus riches, ben, si tu leur piques de l'épargne, ils auront moins épargné. Ou alors, ils iront épargner en dehors de France, et là aussi, ça diminuera le stock d'épargne français. Donc, il ne faut pas partir de la consommation pour comprendre comment ça va se passer, il faut partir du capital productif que les Français ont à leur disposition. Et là, quand tu arrives à Roissy, quand tu arrives partout, tu peux pas t'empêcher de penser que, un, notre capital productif n'augmente plus, et que, deux, le capital productif dont nous avons la disposition se dégrade. Mmh. C'est-à-dire quand tu vois la saleté des villes et tout ça, tu peux pas trouver... L'absence aussi de paix civile, si j'ose dire, est aussi une preuve de la dégradation du... Donc, Je crois que ça part d'une erreur de leur part, de penser que, c'est une idée keynésienne, qu'il y a trop d'épargne dans le système et qu'il faut donc que l'État le mobilise pour en faire quelque chose.
Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, pardon, on retrouve à gauche et on retrouve dans une certaine façon même à droite.
Tout à fait.
Et à droite au RN, où ils disent, quelque part, il faudrait flécher le capital. Alors déjà, comme s'ils avaient la moindre idée de où la rentabilité pourrait intervenir.
Mais il y a des systèmes dans le marché pour flécher le capital qui s'appellent la rentabilité du capital investi. Voilà.
Et je ne pense pas qu'il incombe à l'État de faire ce genre de choses. Alors on est tous d'accord qu'à un instant T, dans le développement d'un pays, il peut advenir, et c'est arrivé sous De Gaulle et c'est arrivé sous Pompidou, que l'on ait besoin d'un certain approfondissement du capital, et l'État, dans ces cas-là, était là pour des grands travaux comme ont pu être les centrales nucléaires ou comme ont pu être la fabrication des autoroutes.
Mais le plus grand investissement que faisait l'État à l'époque, c'était la qualité de l'enseignement. Parce que c'est certainement le plus gros investissement qu'on a fait dans un pays, c'est l'enseignement des générations futures. Parce que c'est là, quand tu prends un enfant à zéro et que tu l'amènes à 20 ans, c'est un investissement gigantesque au niveau de la famille, au niveau de l'État, etc. Et donc si d'un seul coup, tu laisses le système d'enseignement s'effondrer, ce qui s'est passé en France, là aussi, c'est une dégradation extraordinaire de la capacité. Et quelque part, tout le monde se plaint qu'on a maintenant des hommes politiques complètement nuls, etc. Mais c'est peut-être parce que le système d'éducation qui existe aujourd'hui est incomparablement plus mauvais que celui qui existait il y a 50 ans, où on amenait des gens de qualité à la tête. Donc il y a un vrai problème qu'il faut se poser, c'est que l'investissement, c'est pas simplement d'acheter des machines et de mettre des centrales nucléaires. L'investissement, c'est d'abord et avant tout l'éducation des enfants. C'est ce qu'avait compris la Troisième République et que ces crétins aujourd'hui de LFI ne comprennent pas, quoi.
Alors, si l'on veut un petit peu avoir une prospective, c'est-à-dire si l'auditeur curieux veut regarder demain un petit peu ce qui se passe, quels sont les indicateurs qui doivent surveiller?
Alors, le premier qui doit surveiller, j'en ai souvent parlé, c'est celui qui s'appelle l'écart des taux entre la France et des pays raisonnables. Alors, la plupart des gens prennent le 10 ans, ce qui est normal, et le comparent au 10 ans allemand. Écart des taux français. L'embêtant, c'est que, comme tout le monde regarde ça, je suis bien certain que la Banque de France, et peut-être même la BCE, le vendredi soir, quand il n'y a plus de marché, qu'il se passe plus grand, ils bidouillent le truc pour que ça ne monte pas trop, tu vois ce que je veux dire.
Et ça, tu le trouves où, l'écart des taux si
Tu prends sur Bloomberg, sur n'importe quel site d'information. Tu as le rendement du 10 ans français qui s'appelle l'OAT et le rendement du 10 ans allemand qui s'appelle le Bund. Tu fais la différence entre les deux et tu vois, tu le graphes.
D'accord.
Et c'est ce que j'ai mis sur ce graphique. Mais là,
trouvé sur des choses comme Bourse Directe.
Absolument. Tout le monde le suit. Mais la seule chose que je fais, c'est que je remplace l'Allemagne par les Pays-Bas parce que personne ne regarde l'écart France-Pays-Bas. Donc celui-là, probablement, personne ne le bidouille le vendredi soir. Et là, on est en train...
Peut-être que maintenant, ils vont le faire, du coup, en disant « C'est l'indicateur de Charles Gaffe, il veut vite, le trafiquer. »
Ils veulent le trafiquer, mais à ce moment-là, je passerai au Danemark, si tu veux, si j'ai l'impression. Parce qu'il y a des tas de pays qui sont raisonnables. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que... il faudra mettre ce graphique sur l'écran, là. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on est dans une période de panique sur la France.
Dis-moi bien sur ce graphique, explique-le-moi comme si j'avais 3 ans. Alors, à gauche, j'ai quoi?
À gauche, tu as l'écart des taux entre la dette française et la dette des Pays-Bas, qui, en remontant jusqu'en 1993. Donc, tu vois, c'était avant la création de l'euro. Mm-hmm. Donc, il y avait eu deux alertes très chaudes sur la France, parce qu'on n'était pas sûr qu'ils allaient rentrer dans l'euro, etc. On était monté jusqu'à près de 100 points d'écart entre la France et le... C'est-à-dire un point de taux d'intérêt. C'est-à-dire les taux d'intérêt en Hollande devaient être à 5 et nous à 6 ou quelque chose comme ça. Et puis, quand normalement, la France, elle doit payer 25 points de base de plus, c'est-à-dire 0,25 que la Hollande, que les Pays-Bas. Et aujourd'hui, on se rapproche de 0,70, c'est-à-dire 3 fois plus. Et là, c'est les écarts types, c'est-à-dire le plus bas et le plus haut. Tu vois, c'est les trucs... Et la ligne pointillée du milieu, ça n'est que la moyenne, depuis le début. Donc, on voit bien qu'on est en train de passer, on a passé l'écart type du haut, c'est-à-dire qu'on est dans ce qui, historiquement, a été une panique. les paniques de 93, la panique de 97-98, pendant la crise, ça c'était la crise asiatique, qui avait fait péter les taux à la hausse, et puis bien sûr la grande crise de l'euro. Mais là, quand ça s'est passé, la volonté politique de maintenir l'euro, et puis le fait que le chiffre de la France n'était pas si mauvais que ça à l'époque, on a ramené à chaque fois ce spread vers le bas. Mais là, ce qui m'embête, c'est que je ne vois pas pourquoi quelqu'un devrait acheter de la dette française à la place de la dette des Pays-Bas. Parce que, bon, on me dit, oui, mais la France rapporte plus, elle rapporte 0,70% de plus. Allez, ok, 0,70 taux d'intérêt. Je leur dis, c'est très joli, mais s'il y a un risque en France, c'est qu'il y a une perte de capital. Pendant la crise de 2008-2012, là, en Europe, j'avais chaudement recommandé les obligations portugaises. Pourquoi ? Parce qu'elles rapportaient 14% de plus que les obligations allemandes.
Effectivement.
Donc j'avais dit, bon, vous achetez un 10 ans qui va vous payer 14% de plus que les obligations allemandes, même si ça dévalue, j'avais fait des calculs savants, vous allez gagner beaucoup plus, même si le machin portugais sort de l'euro, il n'y a plus d'euro, et ça baisse de 30-40%, sur les 10 ans, vous allez gagner beaucoup, beaucoup plus. Là, 0,75 points de base, ça te couvre contre aucun risque. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la peine de prendre le risque pour 0,8. Tu risques de gagner 0,8 et de perdre 100.
Est-ce que tu penses que dans un monde de l'Europe, de l'euro, qui est devenu tellement politisé, qu'en réalité, la question est même posée comme ça? Est-ce que de toute façon, les banques comme BNP Paribas et ainsi de suite, d'où le fait que les indices aient dévissé un petit peu les bancaires ces dernières semaines, ne sont pas, du coup, les banques, on ne les force pas à en avoir au bilan, indépendamment de ce que leurs analystes leur disent.
Ben, tout à fait.
Ce qui fait qu'en réalité, on a des cours qui sont maintenus et des banques qui ont tous ça au bilan, malgré elles.
Ben, tout à fait.
Malgré le bon sens.
Les compagnies d'assurance, tout ça, elles sont obligées. C'est-à-dire que dans les réglementations européennes, les obligations françaises... les obligations des États européens ne supportent aucune réserve. C'est-à-dire que quand j'étais au conseil de SCOR, tu sais, la grosse société de réassurance française, là, si on achetait Nestlé, les obligations de Nestlé, il fallait mettre 40% de réserve obligatoire, parce que c'était très, très, très risqué, les obligations.
Comme chacun sait.
Si tu achetais les actions de Nestlé, je crois que c'était 60% qu'il fallait mettre en réserve obligatoire. Et si tu achetais une obligation grecque à l'époque, avant la crise grecque, c'était zéro. Donc, ils ont mis au point des systèmes de contraintes sur la façon dont l'épargne est dirigée, le fameux fléchage, pour te forcer à acheter leur saloperie à eux. Mais en faisant ça, il ne faut pas oublier que les compagnies d'assurance, les caisses de retraite, les banques ont des réserves s'il y a un pet. Tu vois, c'est-à-dire que si d'un seul coup, tu as une compagnie d'assurance, tu as un tremblement de terre quelque part, ben tu dois payer, enfin bref. C'est là pour les coups durs. Mais si tu reçois un coup dur... et que tu veux mobiliser tes obligations françaises et qu'elles sont elles-mêmes dans un coup dur, ça veut dire que le capital aujourd'hui dans l'industrie financière en France est probablement investi de façon obligatoire dans des saloperies. C'est-à-dire que si le coup part, je ne sais pas comment on l'arrête, parce que d'habitude, dans le temps, quand les obligations françaises étaient de bonne qualité, les gens, à ce moment-là, je ne sais pas, ils vendaient leurs actions parce que c'était la fin du monde, mais ils achetaient des obligations parce qu'ils se disaient ça c'est l'État français, ça.
C'est ce qu'on a vu quand on fait une analyse des quatre cadrans.
Voilà.
Quand il y a des périodes...
quand t'es en bas à gauche, là.
Voilà. Dans ces cas-là, oui, l'obligation...
Marche très bien. Mais si c'est... Je vais essayer de faire un petit résumé philosophique, mais un peu... Je ne suis pas du tout certain de ce que je vais dire, mais je relis de temps en temps... Un livre qui a été écrit par Schumpeter en 3 volumes qui s'appelle L'histoire de la pensée économique. C'est un truc absolument remarquable. C'est pas vraiment lui qui l'a écrit, mais on a trouvé après sa mort des milliers de petites notes qu'il avait fait sur tous les grands penseurs, et ça a été refait en forme. Donc il y a 3 volumes, le début, puis la période classique et puis la période scientifique. Bon, ces 3 livres sont remarquables, et c'est dans le fond la façon dont Schumpeter réfléchit sur les grands penseurs du passé, sur Wicksell, etc. C'est très intéressant. Et ils arrêtent ce livre en 45 parce qu'il est mort à ce moment-là. Et ce que j'ai découvert en lisant ça, c'est que dans le fond, pour les banques centrales, jusqu'en 45, le cauchemar, c'était la déflation. C'est-à-dire les prix qui baissaient, et on savait pas comment les empêcher de baisser, quoi. C'est le cauchemar, c'était la déflation. Donc Keynes est arrivé et a dit, moi je vais vous faire de l'inflation. Et ils ont dit youpi, parce que ça réglait leur problème de déflation, qui était vraiment le truc qui foutait en l'air le système, quoi. C'est la grande dépression des années 30, années. Et donc ça fait un siècle que dès qu'il y a un problème, les banques centrales se disent « ciel, il faut éviter la déflation, donc remettons du pognon ».
Imprimons comme des gorées.
Donc c'est ce qu'ils font, ils appellent ça une politique keynésienne, ça fait un siècle que ça dure. Mais alors, en 1930, il y a un siècle, allez, ce qui avait dérouillé pendant la grande période de déflation, c'était les actions qui avaient perdu 90%. Parce que pas dans une dépression, c'est ce qui plonge. Les obligations montent et les actions baissent de 90%. Mais si pendant un siècle, tu empêches la déflation, et dans ce cas-là, si j'ose dire, le prochain grand crack, il se passera pas dans les actions. Tu auras imprimé tellement d'obligations que c'est elles qui vont s'effondrer. Donc oui, tu vas pas avoir une baisse de la valeur des actions dans la prochaine grande crise, tu vas avoir une baisse profonde de la valeur des obligations, parce qu'il y a tellement d'obligations que plus personne n'en voudra. Ils en ont tellement imprimé. Donc je me demande si l'écho de la crise de 1929, qui avait touché les actions, ça va pas être, je sais pas, 2029, ce serait rigolo, où les obligations s'effondrent. Tu vois, et les actions continuent à se démerder parce que y en a pas tant que ça, quoi. Donc je me demande si c'est pas à force d'affaire d'un siècle à imprimer des obligations pour éviter qu'il y ait de la déflation, imprimer comme des gorilles, comme tu dis, est-ce que c'est pas les obligations qui vont être la prochaine grande victime, quoi. C'est ça la question qu'on peut se poser. Et comme je sais pas comment ils vont y répondre, je dis aux gens, en tout cas, n'ayez pas d'obligations dans les pays qui pratiquent ce genre de politique depuis un siècle. Alors, les gens me disent « Ouais, mais vous avez recommandé les obligations chinoises et ils ont un déficit budgétaire énorme. » Je leur dis « Ouais, ils ont un déficit budgétaire énorme, les Chinois, je suis d'accord. » Mais, ayant vécu à Hong Kong et ayant été en Chine souvent, avec le pognon qu'ils ont emprunté, aux Chinois, ils n'ont pas de dette extérieure, les Chinois, ils ont des actifs extérieurs. Avec le pognon qu'ils ont emprunté, ils ont fait des routes, des hôpitaux, des aéroports, et ils pourraient privatiser tout ça. Et ça négliderait la dette en 5 minutes, tu vois ce que je veux dire?
Alors que nous, avec le pognon qu'on a emprunté, on a fait des transferts sociaux.
C'est-à-dire de la consommation. Mmh. Ce que j'ai dit, c'est que les Chinois ont fait le transfert de l'épargne vers une augmentation du capital productif, et nous, on a fait un transfert de l'épargne vers de la consommation qui n'a pas... Il n'y a rien, quoi. On n'a rien mis en face de cette dette qu'on a fait. On n'a pas augmenté notre stock de capital. Et notre stock de capital humain s'est détérioré aussi pendant cette période. Donc je dis, écoutez, les enfants, vous pouvez avoir des actions du style Schneider, Air Liquide, Dieu sait qu'on en a parlé. Mais avoir des obligations dans les pays de l'OCDE qui suivent cette politique depuis un siècle, ça me paraît pas une idée brillante, quoi. Donc c'est un peu ça, et les gens me disent, alors vous pouvez regarder ça, parce que ça c'est un petit peu l'écart des taux France-Pays-Bas, c'est un peu le, si j'ose dire, ce que gardent les grands gérants, et ensuite le signal d'alarme, quoi. C'est-à-dire que je prétends qu'on est rentré dans une crise financière sur la France, et cette crise financière, pour l'instant... Les gens n'admettent pas qu'elle est là, quoi. Mmh. Il suffit de regarder les discussions au Parlement, tu te dis, mais ils sont...
Non, mais attends, il y a...
Ils sont fous, quoi.
Déjà, il y a une déconnexion immense entre la réalité du pays et les discussions politiques. Ensuite, dans les discussions politiques, on est arrivé, en tout cas avec un monde médiatique qui imprime son propre ordre du jour. Mmh. Donc tu as la gauche qui veut absolument faire comme ordre du jour l'attaque Zucman. Donc c'est l'attaque Zucman, l'attaque Zucman, l'attaque Zucman, avec Zucman qui arrive et qui nous parle. Bon, même si ça a été débouté par les uns et les autres, on l'a fait nous aussi, ainsi de suite, mais ils reviennent et donc, ce faisant, ils nourrissent l'idée que le problème serait que les riches ne seraient pas...
Ce serait un manque de recettes, mais ça va pas, non ?
Voilà, et que ce serait un manque de recettes. Donc si tu veux, c'est très difficile d'aller contre cette doxa qui nous est imposée toujours par la même gauche.
Mais surtout, ce qui est embêtant, c'est que les gens... qui devraient être neutres, de France Inter, etc., ils ont reçu M. Zucman, là, 42 fois en l'espace de 3 semaines, et ça a été le matraquage total.
En mais ça l'est encore, là, je le voyais encore hier, et tous les jours, on a cette attaque Zucman, alors que tout le monde à droite a expliqué pourquoi par le menu. Il y a un moment où on va arrêter de le faire, parce qu'on s'est tous fait un avis, on est tous...
Non, mais la réponse est toute simple. Aujourd'hui, si l'attaque Zucman vient... il est évident d'abord la Bourse de Paris va s'écrouler et les obligations françaises vont s'écrouler et la survie de l'euro sera en cause. C'est-à-dire que là maintenant on n'a plus le moment où on peut faire des bêtises et puis on dit non, la BCE va acheter, on s'en fout et tout. Aujourd'hui, je suis persuadé que compte tenu s'ils augmentent la taxe Zucman à un moment où on est déjà en crise sur la dette française, les gens vont se dire bon, ça va. C'est-à-dire que 50% de notre dette est détenue par le Qatar, par l'Arabie Saoudite, par la Banque Centrale de Chine, par des grands fonds de pension hollandais, par des grands fonds de pension américains. Donc ça doit faire à peu près ça, les gens qui détiennent notre dette. S'ils disent, et ces gens-là sont assez compétents, et donc ils vont dire, bon, si je comprends bien, si j'ai de l'argent en France, si j'ai de l'épargne en France, je fais massacrer. Mais attends, ils vont se dire, mais bouge pas, qu'est-ce que je gère, moi ? C'est que je gère de l'épargne. Donc, ils vont me massacrer, moi.
Sans compter que, par ailleurs, à la population est envoyé le message qu'on doit supprimer, par exemple, les droits de succession.
Or, qu'on doit les augmenter.
Oui,
qu'on
doit empêcher, quelque part, la succession d'être.
Oui.
La succession patrimoniale n'ayant plus lieu d'être dans les esprits socialistes communistes.
Et donc, c'est une atteinte directe
du perchoir. C'est donc une atteinte directe au droit de propriété. Parce que,
c'est-à-dire
si tu portes une atteinte au droit de propriété, structurellement, il n'y a plus de légalité dans ton pays puisque tu ne peux plus transférer ce droit naturel qui est la propriété à tes enfants. Toi, déjà, c'est un scandale que les successions, si tu veux, soient taxées, puisque c'est un revenu ou un capital sur lequel tu as payé tout le long de ta vie. Pourquoi est-ce qu'il est payé au moment du transfert ? Il n'y a pas de raison qu'il le soit. Ça, en lui-même, c'est une atteinte au droit de propriété. Et là, on voudrait en plus empêcher ce transfert de propriété d'une génération à l'autre, alors même que nous héritons de plus en plus tard. Force est de constater, et que déjà, c'est incroyablement taxé, c'est-à-dire il y a une perte de valeur de la moitié. Nombre de personnes se retrouvent à hériter d'un pavillon de leurs parents qui leur revient, qui on va dire 200 000 euros, et qui doivent le vendre pour payer les fameux droits de succession. Ça n'est pas normal de devoir vendre une maison.
Et la Zucman, c'est de forcer à vendre le capital productif que tu as créé, parce que tu es obligé de vendre, 2% par an, c'est-à-dire que compte tenu des gains que tu as fait sur ton entreprise, ce sera probablement 3% parce qu'il y a des gains, t'as fait un gain en capital, donc il faudra que tu vendes 3% par an, et c'est-à-dire qu'en l'espace de 10 ans, tu perds la propriété de ton entreprise, et qui est rachetée sans doute par des fonds de pension ou par BlackRock, et donc tu dépossèdes les Français de leur capital productif au profit de gens qui, eux, ne paieront pas cet impôt.
Bien sûr.
C'est-à-dire, c'est d'une stupidité. Et alors, ce que disait Balzac, qui était quelqu'un qui m'intéressait beaucoup, puisque j'ai eu une grande période Balzac dans ma vie, où j'ai beaucoup lu ça, il disait, il y a deux sentiments fondamentaux chez un homme, dans la race humaine. Le premier, c'est une femme de 20 ans d'avoir des enfants, et la deuxième, d'un homme de 60 ans, de laisser quelque chose à ses enfants. C'est les deux plus forts. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais dans cette civilisation de la mort qui est la nôtre, on empêche les femmes d'avoir des enfants et on veut piquer l'argent pour que. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on attaque la famille et la transmission de la vie et la famille du patrimoine. C'est-à-dire qu'ils veulent nous individualiser ce que Muret appelait l'homo festivus, qu'il soit tout seul et qu'il n'y ait plus personne, il n'ait plus de famille, il n'ait plus de club, il n'ait plus d'amis, et il a en face de lui ce monstre qu'est l'État. Donc vous vous rendez compte que le
mais
but...
Mais tu pourras t'euthanasier quand tu veux.
Ah oui, ça,
ça sera facilité.
Ça sera facilité.
Quand tu veux, tu pourras prendre rendez-vous pour t'euthanasier.
C'est une grande idée, Nathalie.
Je voudrais relever ce point de détail, mais qui néanmoins m'a beaucoup choquée. Nathalie est apparue récemment dans des vidéos avec un pull moutarde col roulé. Et je trouve qu'il a tenté de relever le défi du pull moche. Mais je tiens à dire que tu restes quand même le goat absolu en termes de pull moche.
Ah oui,
et qu'il n'arrive pas à notre
aujourd'hui.
Niveau. Voilà.
Qu'il n'arrive pas à notre niveau.
Le pull fauviste. Il a essayé de faire son crâneur, mais
il
n'était pas du tout au niveau. Il était nul. Même en ça,
même
franchement,
en ça, il
n'était pas
il
au niveau.
C'était un pull aussi pour descendre la poubelle, mais...
Le nôtre est bien
on
a level up, vraiment.
Alors, où est-ce que vous regardez ça aussi? Ben, vous prenez quelque chose qu'on va vous montrer aussi maintenant, qui s'appelle les obligations françaises contre l'or. Alors, parce que vous êtes un bon citoyen et vous cherchez à économiser de l'argent. Donc, vous cherchez quelque chose qui sera une réserve de valeur, hein. En termes, vous savez que chaque monnaie a trois fonctions, réserve de valeur, échantillon de valeur, enfin, étalon de valeur.
Et unité de compte.
Et c'est l'unité de compte. Et le troisième, c'est la possibilité de transaction. C'est
monnaie d'échange.
Bon, c'est trois fonctions. Donc, une bonne monnaie a... comme une fonction essentielle, la réserve de valeur. C'est-à-dire que l'épargnant met ça dans, mettons, la rente française au 19e, et son niveau de vie ne s'écroule pas une fois qu'il l'a fait. Si vous n'avez pas confiance, vous achetez de l'or. Donc, vous voyez les périodes, si vous remontez à 1970, j'aurais pu remonter avant, mais où vous avez les périodes où les obligations françaises se cassent la figure de façon gigantesque, contre l'or, c'est-à-dire de 1970 à 1980, l'or, l'obligation française perd carrément 95% de sa valeur contre l'or. C'est quand même bien. Monsieur Mitterrand est élu, etc. Et en 81-82, Reagan, Volcker arrivent et remettent les choses à l'ordre et la France est obligée de suivre. Et à ce moment-là, les obligations françaises qui sont à 5 montent à 320. C'est-à-dire que vous faites pendant cette période-là 30 fois mieux si vous avez des obligations. Donc ça, c'est la période bénie où tu devais avoir des obligations dans ton portefeuille parce que c'était génial. Et puis ce crétin de Trichet crée l'euro. Le ratio est à 320 et aujourd'hui il est à 32. C'est-à-dire sur les 25 dernières années, vous avez perdu à peu près 90% de la valeur de votre obligation contre l'or. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une période depuis 2000, avec une petite interruption qui a duré 2 ans là, où les marchés pensent que l'obligation française n'est plus une réserve de valeur. Et ces périodes-là, dans l'histoire, se sont toujours mal terminées, tu vois ce que je veux dire. Mais si j'ose dire, si je regarde l'écart des taux, je me dis la crise vient de commencer. Si je regarde celui-là, je me dis la crise a commencé soit en 2017-18, soit en 2000, c'est probablement en 2000, avec la création de l'euro. Donc ce que j'essaye de dire aux gens, c'est les marchés passent leur temps à hurler, pas une obligation française. Pas une obligation française. Et les Français ont encore 2000 milliards d'obligations dans leur assurance vie en obligation française parce qu'on leur a donné un avantage fiscal dessus. Mais quand vous perdez 90%, vous l'avez payé l'avantage fiscal. Donc ce que j'essaye de dire aux gens, c'est mais protégez-vous. Jusqu'à quand allez-vous accepter de vous faire massacrer par ces gens-là? Et alors, c'est ce qu'on essaye. C'est pour ça qu'avec tu as eu l'idée d'ailleurs de créer l'université de l'épargne, c'était pour essayer d'apprendre aux gens
à se protéger,
c'était tout. Et alors, vous regardez ça et vous dites, l'euro c'est quand même une grosse merde.
Bah oui.
Faut pas dire, enfin, ça... je veux pas, mais on va, y a pas de doute quoi. Et Et cette grosse merde, depuis 6 ou 9 mois, est montée contre les monnaies du continent asiatique.
C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est que moi, on m'interpelle souvent sur les réseaux sociaux en me disant « Ah ah ah, mais pourquoi, regardez, l'euro est monté, ça prouve bien que... »
Ça prouve rien du tout.
Enfin, les gens ont quand même du mal à comprendre, disant « L'euro est monté. »
L'euro est monté, mais alors, tu regardes ce qui se passe et tu te dis « Qu'est-ce qui s'est passé ?» À partir d'avril 2025, Trump a mis des droits de douane comme la fouille, s'est mis à taper sur les pingouins, sur tout le monde.
Il était très fâché.
Il a mis des droits de douane de 25%, 50%, il en avait gros, bref. Et les gens dans la mythologie populaire, keynésienne, etc., mettent le protectionnisme, ça mène automatiquement à la dépression.
Oui. Enfin, en tant que libéral, on a tendance à dire, mais c'est horrible, si tu me mets des barrières douanières, tout mon monde va s'effondrer.
Mais les barrières douanières, enfin, je veux dire, on en a beaucoup parlé ici. Le libéralisme tel qu'il a été conçu pendant les années 2000, c'était très moyen. C'est-à-dire que c'était les grandes sociétés qui se dépatouillaient pour
mettre
en Irlande et jamais payer d'impôts. Et donc, c'était pas tout du libéralisme.
Il y a eu le développement de ce que Charles appelle, qui s'appelle en anglais « crony capitalism » est qu'on traduit par « capitalisme de connivence » et qui n'est pas un libéralisme. C'est-à-dire il y a eu un dévoiement véritablement des concepts et au lieu de laisser véritablement la main invisible être, il s'est développé entre des grands groupes des sortes d'ententes frauduleuses. Au début, on avait créé des actes pour leur permettre de ne pas faire ça. Et puis finalement, ils ont réussi par des montages fiscaux. Effectivement, montrez-moi un mur de 10 mètres, je vous montrerai une échelle de 11. Et il est arrivé la chose suivante, c'est que finalement, ils ont fait remonter tous leurs profits dans des endroits comme l'Irlande, ce qui en réalité faisait que la population locale ne retrouvait pas le ruissellement.
Surtout le système fiscal. Regardez, prenez l'exemple d'Apple que j'ai souvent donné. Apple, ils vont faire leur téléphone en Chine. Ça leur coûte à peu près $100. Donc normalement, ils auraient dû exporter $200 ces téléphones vers les États-Unis où ils les vendaient $1000, ce qui leur aurait fait 900 de profit par téléphone, sur lequel ils auraient payé 30% d'impôts, et ça aurait été très bien, quoi. Personne n'aurait de problème.
Redonnant ainsi à l'État, qui lui-même aurait pu faire des routes,
des hôpitaux, etc. Mais c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Ils vendent leur production à l'Irlande, où il y a 6% d'impôts, je crois. Et ensuite, ils payent les 6% à l'Irlande. Et ils vendent l'Irlande vend les téléphones aux États-Unis à 1000. C'est-à-dire que aucun profit n'apparaît aux États-Unis. Tous les profits apparaissent en Irlande où ils sont pas taxés. Mais ça, c'est pas du libéralisme. Tu vois ce que je veux dire? C'est de l'optimisation fiscale. Et normalement, c'est ce qu'essaye de faire Trump. D'ailleurs, aussi curieux que ça paraisse, quand vous regardez ses droits de douane, c'est en fait des taxes qui sont mises sur le chiffre d'affaires des gens qui exportent aux États-Unis pour éviter ce genre de truc. C'est-à-dire que maintenant, Apple, ils payent 25% sur les importations qu'ils font ou d'Irlande ou de... Et c'est la même chose, ou de Chine, ils n'en ont rien à foutre. Donc, ils capturent. Donc,
est-ce qu'il n'y a pas un risque que le consommateur se retrouve à la fin le dindon de la farce à devoir payer son iPhone plus cher.
C'est très bien, oui, ça peut se passer, mais si Apple met les téléphones à 1500...
On va acheter des Huawei.
Le monde va acheter des Huawei ou acheter des Samsung, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas... Donc ce qui se passe, c'est qu'on se rend bien compte, c'est pour ça que l'inflation monte pas tellement aux États-Unis, c'est que les sociétés qui pratiquent ce genre de trucs absorbent ça dans leurs marges. C'est-à-dire que ça correspond à une baisse de la rentabilité des sociétés, mais qui était une fausse rentabilité parce que c'était appuyé sur des systèmes fiscaux qui n'étaient pas...
Alors, j'ai l'impression, moi, que...
Donc, je voudrais revenir à ce qui se passe aujourd'hui. C'est que, donc, les gens se sont dit, en voyant ce qui se passait, bon, il va se passer... Ils avaient beaucoup d'actifs aux États-Unis parce que le marché américain était beaucoup monté, puis le dollar, tout ça, il y a beaucoup d'obligations. Et les gens se sont dit, le dollar va s'écrouler avec ça.
Oui.
Et donc, je vends le dollar à découvert sur mes positions que je garde aux États-Unis. C'est-à-dire, tu es Apple, tu gardes l'action Apple, mais tu vends le dollar contre l'euro. Et du coup, ça fait monter l'euro comme une fusée contre toutes les monnaies. Donc, l'euro est monté toutes les monnaies parce que une grosse partie de l'épargne européenne avait été investie aux États-Unis en dollars, et que les types se sont dit, je vais me protéger. Et donc, ils vendent le dollar, ça fait monter le truc, mais maintenant, ils se retrouvent avec 2 euros, qui restent une grosse merde. Et ce qui va se passer, c'est comme l'euro est beaucoup monté, tu vois l'Allemagne qui devient complètement non compétitive. Son industrie est en train de s'écrouler, littéralement. C'est absolument effrayant.
Bon, sans compter que l'Allemagne est confrontée comme nous à la même pyramide des âges, au même encore pire que la nôtre, bien sûr.
Et puis en plus, si tu veux, ils se trouvent face aussi aux décisions qu'a prises la Commission européenne de plus faire de voitures à moteur thermique. Et donc automatiquement, comme c'est tout ce qu'ils faisaient de mieux, ils ont perdu leur avantage comparatif. Donc tu te dis, alors l'Allemagne va se ratatiner, mais ce que j'essaie d'expliquer aux gens dans le dernier papier que j'ai écrit, c'est quand une monnaie monte, il faut à peu près 12 à 18 mois pour que ça ait un impact sur le commerce extérieur. Parce que pendant 12 à 18 mois, les commandes qui ont été prises avant avaient été prises à l'ancien, couvertes, etc. Et c'est simplement, il faut 12 à 18 mois pour que le nouveau prix du taux de change commence à avoir un prix sur les transactions qui auront lieu. Parce que pendant les 12 mois qui viennent, on va livrer les commandes qui ont été faites dans les 12 mois précédents. Tu vois, donc tout ça, ça a été couvert. Mais à partir de maintenant, ça n'est plus. Donc ça veut dire qu'en avril-mai de l'année prochaine, c'est-à-dire un an après Trump, il risque d'y avoir des chiffres sur le commerce extérieur européen dramatiquement mauvais. Alors, si t'as la France qui est en faillite, le commerce extérieur qui se vient en Europe, parce que pour l'instant c'est tenu par les exportations allemandes dont les commandes avaient été prises il y a 12 mois, je me dis aux gens, vous avez bien du courage si vous avez encore de l'euro. Je me demande qui va en acheter dans 6 mois.
Le problème, je pense que c'est pas les gens qui nous écoutent. Le problème, c'est les gens qui ont jamais véritablement regardé ce qui compose leur assurance vie, qui ont jamais véritablement regardé ce qui
ils
compose.
Sont fous.
Non, mais parce que ils font confiance à leurs conseillers bancaires et que structurellement, quand ils regardent la position sur leur salaire bien.
Ça a l'air bien.
Mais tu vois, on leur dit c'est la valorisation telle qu'elle apparaît quand on imprime le papier.
S'ils avaient des obligations françaises depuis 2022, 2021, 2022, ils ont perdu 25% en capital. C'est-à-dire, c'est passé ce qu'ils avaient à 100 quand les taux étaient à zéro, là. Ça vaut 75 aujourd'hui avec les taux à 3,5. Donc, et en plus, il y a eu à peu près 10 à 15% d'inflation, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent en termes réels en ayant perdu 35%, alors que s'ils avaient acheté de l'or ou des obligations chinoises, ils seraient en hausse de 25%. Donc, tu peux dire aujourd'hui que on a procédé ici par différentes étapes. La première étape, ça a été de protéger la partie obligataire. On a dit, vous achetez de l'or et vous achetez des obligations chinoises. Ça a très bien marché. Les obligations chinoises sont montées, le reste a baissé. Bon. Et maintenant, on arrive à la deuxième étape, qui est de dire maintenant, c'est le capital productif européen qui n'est plus valable, donc il va avoir une baisse de la valeur de la monnaie, c'est évident. Et on va essayer de vous protéger contre ça. Et l'une des conditions pour faire ça, c'est de sortir de l'euro et de se mettre dans des monnaies qui, aujourd'hui, si tu veux, le Japon a 5% d'excédent de ses comptes courants, ce qui est monstrueux. Et la Chine doit avoir 6 ou 7%, ce qui est encore plus monstrueux. Donc je dis, écoutez, vous êtes vous avez votre épargne chez un créditeur, et de l'autre côté, vous avez un débiteur. Si vous restez chez le débiteur, c'est votre problème. Aujourd'hui, la valorisation n'est pas ce que j'attendais parce qu'il y a ce mouvement de Trump. Mais sinon, je me dis, il faut être fou comme un lapin pour avoir des monnaies européennes, quoi. Il faut être fou. Maintenant, si vous voulez, vous le faites, ou alors vous dites que je comprends rien et vous passez à autre chose, mais c'est pas impossible aussi. Je me suis souvent trompé dans ma vie, mais c'est pas pour ça que j'ai pas appris. On apprend par ses erreurs, mais là, ce que j'essaie de dire, c'est faites gaffe, parce que une hausse de 17% de l'euro vis-à-vis du dollar, du yen et du yuan, enfin du renminbi, ça a des conséquences sur le commerce extérieur européen qui vont apparaître dans les 6 à 9 mois qui viennent, qui vont être monstrueuses. Et on a besoin de ça comme d'un trou dans la tête. On a déjà l'énergie la plus chère du monde, le travail le plus cher du monde, le système de régulation le plus insensé du monde. Si en plus on a la monnaie la plus chère du monde,
Mais moi, ce dont j'ai peur, et je le dis souvent ici, mais je vais le redire, c'est que les Français qui ne nous écoutent pas, ne comprenant pas vraiment ce qui se passe, qu'il y ait un réflexe d'écouter une certaine gauche et de se dire « Ah bah oui, eh ben, quelqu'un a volé mon fromage et a mort les riches ».
Ah ben ça, ils vont le dire. Mais alors là, c'est un truc très important. Il faut lire les analyses de René Girard. Hein. C'était un homme tout à fait éminent, que j'ai beaucoup aimé dans ma vie. Qu'est-ce que disait René Girard ? Il disait « La plupart des systèmes politiques sont organisés pour trouver le bouc émissaire. » Le but de l'homme politique, c'est pas de résoudre les problèmes, c'est de dire « C'est la faute des Juifs, ils ont toujours été d'excellents boucs émissaires, il n'y a pas de problème. »
C'est la faute des Arabes.
C'est la faute des Arabes, c'est la faute des riches, c'est la faute des immigrés. C'est jamais de leur faute. Hein. C'est toujours la faute d'une petite partie de la population qui, en général, a bien réussi et que tu désignes à la vindicte populaire. Mais moi, je prétends que si tu dis les riches, les juifs ou les banquiers, dans l'inconscient collectif, c'est la même chose. Et donc, cette espèce de discours anti-riche est en fait un discours antisémite. Et tu le retrouves très bien dans toutes les histoires contre la Palestine, etc. Tu vois les mêmes qui expliquent que, dans le fond, les Juifs, c'est pas très bien, quoi. C'est pas... Donc, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, je sens ces espèces de trucs horribles qui se passent de temps en temps.
Alors, il est vrai que dans l'histoire, avec un grand H, les catholiques ne pouvaient pas faire de métier d'argent, on se retrouvait, la couronne de France a emprunté à des banquiers juifs, et ça a donné lieu, au moment des Templiers, à de célèbres procès et de célèbres captations de fonds.
On a d'abord commencé par liquider les Templiers, qui n'étaient pas juifs.
Oui.
Puis ensuite,
mais c'est parce qu'ils avaient les sous.
Mais il ne faut pas oublier que Saint-Louis... a été celui qui a viré les Juifs du royaume de France. Donc, ils ont été interdits.
Sans oublier de capter
Mais tu sais, il y avait quelque chose qui existait en France qui s'appelait le droit d'aubaine. C'est-à-dire, c'était un truc qui existait dans le droit français. C'est-à-dire que si un nom local mourait dans une ville, par exemple, à ce moment-là, le seigneur local pouvait prendre tous ses biens, parce que c'était le droit d'aubaine.
Donc si t'avais un riche marchand,
qui mourait chez toi, tu lui piquais tout, c'était le droit d'aubaine. C'est-à-dire que c'était 100% sur l'héritage, à condition que ce soit pas un local. Donc, je crois que dans l'histoire, on a beaucoup exercé le droit d'aubaine contre les juifs. Mais les juifs, les riches ou les banquiers, pour moi, dans l'inconscient populaire, si tu veux, plus personne n'ose dire les juifs. Tout le monde dit les banquiers ou les riches. Mais c'est la même chose. Et derrière ça, tu vois ça apparaître en Palestine, tu vois ça apparaître partout. Il y a le grand retour de l'antisémitisme à cause de l'appauvrissement du pays. Il faut bien qu'il y ait des sagas qui soient responsables.
Sans jamais remettre en cause, parce que si vous avez vu l'émission de la semaine dernière qui était sur l'accroissement des transferts sociaux, sans véritablement pointer du doigt ceux qui en sont responsables, c'est-à-dire les dirigeants politiques depuis 68, qui ont eux-mêmes précipité tout le monde, je veux dire, en rajoutant Sarko, ça a été 600 milliards de dettes, Hollande, ça a été 300 milliards de dettes, 340, et ainsi de suite, pour arriver aujourd'hui à 3300 milliards de dettes, et tout le monde regarde par-dessus son épaule en disant « c'est quand même la faute de Bernard Arnault ». C'est vraiment, on est deux dans l'ascenseur qui a pété, quoi.
C'est ça, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous avez cette captation qui se passe de ceux qui travaillent vers ceux qui ne travaillent pas, parce que c'est ça dont il s'agit. C'est ce que
l'énorme problème des retraites que personne ne veut regarder en face.
Et bouge pas, je crois que les retraites, ça doit correspondre à peu près, le paiement des retraites, ça correspond à plus de 40% du creusement de la dette.
Oui, bien sûr, c'est le plus gros budget.
C'est-à-dire c'est 14% du PIB, c'est monstrueux. Donc, encore une fois, on se retrouve devant un refus d'analyser la réalité. Nous, ce qu'on essaye de faire ici avec vous, c'est de montrer les chiffres, de regarder comment ça se passe, de voir quelles sont les sorties possibles. Mais ces gens-là ne regardent jamais les chiffres. Par exemple, encore une fois, je ne connais pas d'exemple d'une augmentation des impôts qui est amenée à une réduction du déficit. Donc quand les crétins de gauche me disent que l'effet d'affaire ça marche pas, c'est pas la même chose. Je dis, montrez-moi un cas, à part celui de Clinton dont j'ai parlé, où une augmentation des impôts est amenée à une réduction du déficit budgétaire. C'est à eux de prouver. Et bien, je leur dis, je ne le connais pas de cas. Maintenant, peut-être vous en avez trouvé. Donc, c'est pas l'effet d'affaire. C'est simplement trop d'impôts tue l'impôt. Donc, ils bottent en touche. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est, mais apprenez à regarder les chiffres et surtout, pour votre épargne, ce que je me tue à dire aux gens, qui est très importante, ne faites pas confiance à l'État.
Oui.
C'est, l'essentiel, c'est quand même ne faites pas confiance à l'État parce qu'il va vous plumer. Donc, on revient toujours à la même chose, c'est prenez en main
votre épargne.
Votre épargne. Parce que les gens me disent, ça va pas du tout, il faut que l'État s'en occupe. Et je leur dis, montrez-moi un truc dont l'État s'est occupé depuis 40 ans et qui a marché. Donc, la première des décisions, c'est pour tout ce qui vous concerne, votre épargne, votre santé, je sais pas quoi, l'école de vos enfants et tout, prenez les choses en main parce que ces gens-là sont des criminels.
Voilà. Bon, ben, j'espère qu'on vous a bien remonté le moral.
Oui, mais c'est-à-dire qu'il n'existe de liberté que si vous la saisissez.
Oui.
Vous ne pouvez pas être libre, c'est ce que je dis toujours. D'être conscient. Le dindon qui vient tous les jours, le paysan lui donne à bouffer, et chaque fois qu'il voit arriver le paysan, il est très content. Mais un jour, le paysan arrive aux alentours de Noël, et on fait une dinde pour Noël, et à ce moment-là, il n'est pas content. Donc, ne soyez pas les dindes pour Noël, ne soyez pas content quand on vous donne quelque chose comme ça, gratuitement, ça n'existe pas.
Ça me fait penser au glouglou d'Astérix.
Oui.
C'est quand ils arrivent.
Ils arrivent en avec les glouglous, oui.
Avec les glouglous. C'est pas aussi bon que les sangliers, mais quand même, les glouglous.
Les glouglous.
Voilà. Bon, bah écoutez.
Ne soyez pas des glouglous.
Ne soyez pas des glouglous devant les Gaulois. On va essayer petit à petit de trouver des solutions. Si vous voulez prendre votre épargne en main, n'hésitez pas à aller voir l'Université de l'Épargne et ce qu'on vous propose comme cours et comme formation pour essayer justement petit à petit de remonter cette pente. Et en attendant, on est ravis encore une fois d'avoir passé un petit moment avec vous, une petite heure, et on vous dit avec grand plaisir à la semaine prochaine. Merci à vous.
Merci beaucoup.